Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, bien des choses bougent autour de nous. Les hommes sont dans l'inquiétude et dans l'angoisse, se demandant ce qui va leur arriver. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Si ces questions ont leur part de légitimité, il en est d'autres qui sont infiniment plus importantes, car elles touchent non seulement à cette existence terrestre actuelle, mais à notre avenir éternel. Nous devons prendre garde à ne pas négliger un si grand salut. Nous devrions nous inquiéter en priorité du devenir de notre âme. Nous devrions considérer avec le plus grand sérieux cette affirmation sans équivoque de la parole de Dieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous devrions nous préparer à la rencontre de notre Dieu, qui est notre Créateur, notre Providence, notre Sauveur et Rédempteur, si nous le recevons comme tel. Oui, nous devons le faire en priorité, de toute urgence et sans plus tarder. Et c'est pourquoi l'annonce de l'Évangile a encore autant d'importance ce soir, et surtout que chacun le reçoive avec un cœur bien disposé. Voici une histoire vraie, voici un témoignage. Monty Lewis n'oublia jamais la nuit qu'il passa dans le trou, une cellule particulièrement sinistre du London Detention Centre au Canada, dans l'attente d'un transfert vers une autre prison. Durant de longues heures d'insomnie, il eut le temps de passer sa vie en revue et de mesurer tout le chemin parcouru depuis sa naissance en Nouvelle-Écosse en 1945. L'alcool, la drogue, la violence, la délinquance l'avaient conduit dans un chemin sans issue. Cette nuit-là, il craignait fort d'être arrivé au bout d'une existence où les échecs dans tous les domaines de la vie l'avaient mené au désespoir. Certes, il n'avait pas été aidé, ni par son milieu familial, ni par les circonstances de la vie. Si sa mère l'aimait vraiment et avait essayé de lui donner une bonne éducation, son père était un homme extrêmement dur qui ne cessait de répéter à son jeune fils « Toi, t'es un bon à rien, on ne pourra rien faire de toi ». À maintes reprises, dès son enfance, Monty avait été témoin de scènes insoutenables où, sous l'emprise de la boisson, son père battait sa femme jusqu'au sang. Une haine féroce avait alors rempli son cœur. Très jeune, Monty devait préparer les boissons de ce père violent, un mélange d'alcool, de café et de sucre. Il devint rapidement « expert » entre guillemets dans ce genre de préparation et y prit goût lui-même. À 5 ans, en cachette, il avait bu son premier verre d'alcool et aussitôt un sentiment de force l'avait envahi. Il n'était plus ce bon à rien méprisé, mais il se sentait plus fort et meilleur que les autres, sentiment illusoire qu'il devait ressentir par la suite chaque fois qu'il buvait de l'alcool. Il apprit aussi à se battre. Jeune adolescent, il aimait voir le sang couler et ne manquait aucune occasion de se bagarrer. Un soir, rentrant à la maison complètement ivre, il se saisit d'un fusil pour tuer son père. Comme il avait beaucoup bu, il eut un malaise et ne put heureusement commettre l'irréparable. Il fut réveillé par la police qui lui mettait les menottes pour le conduire au poste. Cette fois-là, après plusieurs comparutions devant le tribunal, il en fut quitte pour une bonne amende et un sévère avertissement. Très tôt, il quitta le domicile familial pour vivre sa vie à Halifax. Il réussit à trouver un travail dans un centre de soins où il apprit à sniffer de l'oxygène et à s'adonner à une consommation sans frein de somnifères et autres barbituriques. Quelque temps plus tard, à Toronto, un vendeur de drogue l'initia à l'usage de l'héroïne. Une nouvelle étape qui accéléra sa déchéance. Cette drogue dure, en alternance avec de la marijuana, du hash, du LSD, enferma Monty dans une dépendance totale. Sa vie n'avait désormais qu'un but, se procurer chaque jour suffisamment de drogue pour échapper au monde réel et entretenir une illusion de liberté. Sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, il était d'une extrême violence. Les bagarres étaient quasi quotidiennes. Et un matin, la police trouva Monty dans la rue, à demi-mort. Cette fois-là, il avait trouvé plus fort que lui. Battu avec une bouteille cassée, il avait perdu presque tout son sang et fut sauvé in extremis. Encore une fois, il eut l'occasion de réfléchir sur sa vie. Il était dans un désespoir total. Il voulait changer. Mais toutes ses bonnes intentions ne servaient à rien. Il était esclave. Il vivait dans un monde d'angoisse et s'imaginait que tout le monde cherchait à le tuer. Il restait parfois des jours et des jours enfermé dans son appartement, un fusil à canoncier à ses côtés. À un moment donné, il resta une semaine entière sans dormir. Comme dealer, il était recherché par la police partout au Canada. Et il avait des ennemis même dans les milieux de la drogue. Il réussit à leur échapper jusqu'au jour où une jeune droguée le dénonça. Lorsqu'il sut qu'il avait été trahi et qu'un groupe de voyous avait juré sa perte, il descendit dans la rue, animé d'une rage folle, incontrôlable. Se servant de la crosse de son fusil, il frappa aveuglément plusieurs hommes, blessant sérieusement certains d'entre eux. Quelques jours plus tard, la police faisait irruption dans son appartement. L'heure des règlements de compte était arrivée. Et c'est peu après cette arrestation qu'il se trouva dans le trou, cette cellule sinistre où l'on enfermait les plus durs. Là, tout à nouveau, la peur le submergea. Il voulut se suicider, mais dans la cellule, il ne trouva rien qui lui permette de passer à l'acte. Alors, dans l'angoisse de la mort, imaginant que les gardes de la prison venaient pour le tuer, ne voyant aucune issue, il pensa soudain à Dieu. Il n'avait pas d'autre recours. Il ne savait pas formuler une prière. Mais un cri monta du fond de son cœur. « Dieu, j'ai tout essayé, et je ne sais même pas si tu existes. Mais Dieu, donne-moi la force de mourir comme un homme quand ils viendront me tuer. » Il ne comprit pas ce qui se passa à ce moment-là. Mais pour la première fois depuis de longues années, l'angoisse fit place à la paix. Il s'allongea sur le sol de la cellule et s'endormit d'un sommeil profond. Le lendemain, à son réveil, une grande surprise l'attendait. Quelqu'un était là dans sa cellule. C'était un aumônier des prisons, le brigadier Vic Greenwood de l'armée du salut. Il lui dit simplement « Monty, Jésus-Christ vous aime et veut vous pardonner tous les péchés que vous avez commis. » Cette fois-ci, Monty était prêt. Toute son arrogance avait disparu. Il avait tout fait pour essayer de lui-même de remplir le vide de son cœur. Il avait refusé l'idée même d'un Dieu, mais il avait échoué. Il n'était qu'une loque, un débris humain que la drogue, l'alcool, la violence avaient détruit. Les larmes coulant à flots, il fit monter vers Dieu une prière toute simple mais profondément vraie. « Seigneur Jésus, pardonne-moi tout le mal que j'ai commis. Viens dans mon cœur, dans ma vie, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Donne-moi la force de devenir la personne que tu aurais voulu que je sois. » À ce moment-là, à nouveau comme la veille, une paix incompréhensible remplit son cœur et il comprit qu'il n'aurait plus jamais besoin de drogue. Le vide de son existence était rempli. Certes, il y eut encore des difficultés. Il fallut à Monty tout un réapprentissage de la vie. L'abus de drogue et d'alcool avait laissé des traces profondes. Il voulait lire la Bible, mais lorsqu'il arrivait au deuxième mot d'une phrase, il avait déjà oublié le premier. Mais peu importait, il persévérait. La Bible devint sa compagne de tous les instants. Et petit à petit, il retrouva non seulement la faculté de lire, mais aussi tout ce qu'un long usage de drogue avait altéré. La mère de Monty était décédée, mais il désirait de tout cœur revoir son père pour se réconcilier avec lui, pour l'aider dans ses vieux jours. En même temps, il craignait cette rencontre. La haine et l'incompréhension avaient creusé un tel fossé entre eux qu'il se demandait s'il était possible de le combler. D'ailleurs, une première rencontre, brève, n'avait pas permis de les rapprocher. Mais quelque temps plus tard, il sut que son père avait été hospitalisé. Il partit alors immédiatement le voir, et là, dans la salle de l'hôpital, il eut une scène émouvante, où le père et le fils se pardonnèrent mutuellement. Après le fils, ce fut le père qui, bouleversé par le message de l'Évangile, fit monter vers Dieu une prière ardente, se repentant de ses péchés comme l'y exhorte l'Évangile. Des années ont passé depuis le jour où Monty, dans le trou du pénitencier, trouva la force en Dieu pour abandonner une vie qui le menait droit à la mort. Il ne fut plus jamais le même. Il put fonder une famille, avoir des enfants, travailler de ses mains pour subvenir aux besoins des siens. Sa vie a maintenant un sens. Il cherche à aider ses anciens compagnons de misère à trouver, eux aussi, la force de changer de cap. Voilà, mes amis, un beau témoignage de l'action puissante de Dieu pour la transformation des vies. Et nous voudrions maintenant ouvrir la parole du Seigneur dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22. Nous lirons à partir du verset 47 jusqu'au verset 53. Et nous voudrions parler aujourd'hui de l'homme à l'oreille coupée. Mais prions d'abord. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège de pouvoir entendre le témoignage de ce que tu accomplis dans des vies, ce que tu es capable de réaliser avec puissance dans nos vies à chacun, puisque chacun à notre niveau, nous avons bien besoin aussi de l'action de ton esprit et d'une action surnaturelle pour que nous puissions être libérés de la puissance du mal, de la puissance du péché dans nos vies. Et merci Seigneur parce que tu utilises ta parole encore aujourd'hui pour qu'il puisse en être ainsi et que chacune et chacun d'entre nous puisse être ainsi glorieusement visité par la réalité de ton amour et de ta puissance. Sois loué, sois béni notre Seigneur. Amen. Nous lisons donc dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 47 ce passage. C'est Jésus, de Jésus qu'il est question au départ, il est marqué là. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frappons-nous de l'épée !» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tout le jour avec vous, tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Amen. » Voici l'homme à l'oreille coupée. Dans tous les récits de la parole de Dieu, eh bien, nous avons toutes sortes d'enseignements excellents qui sont là pour notre bénédiction. Et celui-ci ne fait pas exception jusque dans les moindres détails. Il y a pour nous des trésors. Aujourd'hui, nous voulons parler donc de la conversion d'un homme dont il nous est dit que peu de choses, mais chacune de ces choses, chacun de ces détails est important pour nous. L'homme à l'oreille coupée est à bien des points rempli de ressemblances avec beaucoup d'hommes actuels. Première chose qu'on voit, cet homme était venu pour arrêter Jésus. C'est ce qui ressort de ce texte. Et certainement son tort principal, son péché principal. Nous ne connaissons pas les péchés de cet homme par ailleurs. Nous ne savons pas s'il était spécialement orgueilleux ou ami de l'argent ou vantard ou autre chose. Mais il avait voulu, avec beaucoup d'autres, arrêter Jésus. Et c'était là son mal. Et la cause de tous ses ennuis d'ailleurs aussi. De plus, il était certainement un des meneurs ou de ceux qui conduisaient cette expédition nocturne. Un des plus excités probablement aussi. Et ce n'est certainement pas par hasard si l'épée s'était abattue sur lui. Il existe aujourd'hui une quantité de gens qui voudraient arrêter Jésus ou arrêter son œuvre. Ils ne veulent pas toujours le faire directement et consciemment, mais leur attitude revient au même. Ainsi, il y a ceux qui s'opposent directement à la prédication de l'Évangile, la traitent de toutes sortes de choses mauvaises, l'accusent faussement, la calomnie, ils veulent ainsi arrêter Jésus. Il y a ceux qui, sans forcément s'opposer directement, ne veulent pas prendre position pour Christ. Et ils se mettent ainsi directement sous cette évaluation, ce jugement du Seigneur, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Eux aussi, de cette façon, travaillent pour arrêter Jésus, car le fait de ne pas prendre parti pour Christ empêchera qu'il soit des encouragements pour ceux qui les entourent de venir à Christ. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas travailler pour Christ, qui ne veulent pas faire avancer son royaume et sa justice, son royaume et sa parole. Ils sont peut-être prêts à reconnaître la vérité, la valeur de ses enseignements, mais ils ne veulent pas se mettre à l'œuvre pour Dieu. Eux aussi, par leur attitude, arrêtent Jésus et son œuvre, surtout que le Seigneur a dit « Celui qui n'assemble pas avec moi, disperse ». Et puis il y a le grand nombre de ceux qui négligent de s'occuper de ce sujet si important du salut de l'âme. Or il est écrit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Car le négliger, c'est encore une façon de s'y opposer et de vouloir arrêter Christ. Et puis il y a encore ceux qui, après l'avoir connu, abandonnent sa cause. Le livre des Proverbes nous dit « Celui qui abandonne est frère de celui qui décrit, est frère de celui qui détruit. » Celui qui abandonne est frère de celui qui détruit. Et c'est vrai que ceux qui agissent ainsi le font en ennemis qui s'opposent à Christ et veulent l'arrêter. Et puis il y a ceux qui préfèrent l'argent ou toute autre chose à Christ. Et combien qui sont aussi coupables de ce péché-là? Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » C'était le problème de Judas, et c'est le problème de beaucoup aujourd'hui qui, d'une façon ou d'une autre, arrêtent Jésus. Donc ça, c'est la première chose. Première chose, un homme qui était venu pour arrêter Jésus. Et puis une deuxième chose que nous voyons, cet homme était aussi serviteur du souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il était soumis au souverain sacrificateur de la religion juive et à cette loi religieuse qu'il représentait. Cet homme était certainement très fier de sa position. Certainement était-il lévite d'origine de cette tribu d'Israël qui avait été choisie pour le service du temple. Cet homme devait de plus être persuadé de son bon droit, persuadé que son maître, puisqu'il était souverain sacrificateur, ne pouvait pas se tromper, persuadé en même temps que sa religion était la meilleure du monde et que par conséquent il fallait balayer au besoin par la force tous ceux qui osaient s'y opposer. Or cet homme, tout persuadé qu'il soit, se trompait sur toute la ligne, parce que Dieu ne voulait pas de gens choisis avant leur naissance ou suivant leur naissance, mais il voulait, avant toute chose, des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu avait rejeté cette religion orgueilleuse faite de règles et de traditions humaines et qui ne laissait plus place à la grâce et à la miséricorde divine. Cet homme de plus se fourvoyait complètement en suivant un maître qui violait la loi alors qu'il était chargé de l'appliquer. Tout souverain sacrificateur qu'il était, son maître était dans un chemin de perdition et lui y allait tout aussi sûrement s'il ne changeait pas et ne se convertissait pas. Qu'ils sont nombreux aujourd'hui aussi, ceux qui sont dans une position comparable. Ils s'imaginent qu'à cause de leur naissance ou d'une autre chose particulière, ils doivent être traités, avoir un traitement spécial de la part de Dieu. Ils sont persuadés que leur religion ou leur philosophie ou leur façon de penser est la meilleure. Ah, ils sont sûrs de leur bon droit. Ils peuvent même avoir un maître à penser, ou plusieurs, auxquels ils attachent une si grande valeur. Et ainsi, ils se bercent d'illusions et marchent dans un chemin d'éloignement de Dieu, un chemin de manque de bénédiction, un chemin de perdition. Le troisième grand point nous rappelle que cet homme a été préservé d'un grand danger. En effet, si Pierre, puisque c'était lui le pourfendeur, lui avait coupé l'oreille, ce n'était pas parce qu'il visait l'oreille, mais très certainement visait-il le sommet du crâne, et si le coup avait porté comme il en avait l'intention, le serviteur du souverain sacrificateur n'aurait plus été là pour raconter ensuite ce qui lui était arrivé. C'est la main de Dieu qui avait préservé cet homme et qui avait empêché qu'il ne soit tué, le gardant dans ce grand danger. Et ceci met en évidence l'amour de Dieu en même temps que sa patience pour supporter un homme qui pourtant agissait ainsi contre lui juste auparavant. Il l'a sauvé de ce grand péril et d'un péril plus grand encore, puisqu'il s'agit du péril de la perdition éternelle, ce puits de l'abîme au bord duquel cet homme était en train de franchir le bord du précipice sans s'en rendre compte. Oh, la bonté et l'amour de Dieu pour l'homme aujourd'hui encore! Combien de fois il use de patience envers nous pour nous retirer de bien des périls dans lesquels nous pouvons nous trouver. Si nous examinions nos vies, eh bien, nous avons pu nous rendre compte de certains de ces périls, de la façon dont nous en avons été tirés, dont nous en avons été gardés. Du moins, pouvons-nous nous en rendre compte en partie? Et puis, soyons persuadés qu'il y en a bien d'autres que nous n'avons même pas réalisés et dont nous avons pourtant été bien gardés cependant. Oh, la bonté de Dieu qui nous a également préservés de la perdition jusqu'à présent pour que nous soyons aujourd'hui tous vivants et dans la possibilité de nous tourner vers le Seigneur Tout-Puissant. Béni soit son nom. Malgré tout, notre quatrième chapitre nous amène à constater que cet homme a cependant eu l'oreille coupée. Parce que certains peuvent se poser la question, si Dieu l'a préservé, pourquoi ne l'a-t-il pas fait complètement? Pourquoi a-t-il permis que cette oreille soit ainsi coupée? C'est que, par ce qu'il a permis, Dieu avait différents buts que nous pouvons examiner tour à tour. Tout d'abord, Dieu voulait montrer à cet homme qu'il ne pourrait plus servir dans le temple puisqu'il avait été mutilé. Il ne pouvait plus faire un service agréable à Dieu Et il fallait qu'il comprenne cela. Il fallait qu'il réalise cela. Il y avait déjà longtemps que pour Dieu, il en était ainsi. Mais il fallait détruire les illusions dans le cœur de cet homme. C'est seulement ainsi que réalisant son indignité, il se tournerait vers le Dieu vivant en toute simplicité et humilité de la bonne façon. Ensuite, le Seigneur voulait relever l'importante signification de l'oreille. L'oreille, c'est ce qui nous permet d'entendre la voix de notre Maître. C'est elle qui aujourd'hui vous permet d'écouter la parole de Dieu. Pour Dieu, l'oreille a toujours eu une grande importance. Dans l'Ancien Testament, quand un sacrificateur était amené devant Dieu pour la consécration, on lui mettait du sang du sacrifice de consécration sur le gros orteil de son pied droit, sur le pouce de sa main droite et sur le lobe de l'oreille droite. Ensuite, on mettait de l'huile par-dessus. Il fallait que l'oreille soit purifiée par le sang de Christ et ointe de l'huile du Saint-Esprit pour pouvoir bien accomplir son œuvre selon Dieu. Et il nous est expliqué encore, en sus, que quand un esclave désirait se consacrer volontairement à son maître par amour et jusqu'à sa mort, on lui perçait l'oreille droite avec un poinçon, le lobe de l'oreille droite avec un poinçon, et cela voulait dire qu'il écouterait toujours son maître jusqu'à la fin de ses jours pour lui obéir. Ah, que nos oreilles puissent nous servir à écouter la parole de Dieu, là aussi, pour nous y soumettre, et que nous soyons ainsi de bons serviteurs du maître. Et puis, en troisième, le Seigneur voulait aussi faire de tout cet événement une image de la façon dont le peuple d'Israël n'avait pas écouté sa voix. Il n'avait pas voulu écouter la parole de Christ. Il n'avait pas voulu écouter Dieu par conséquent. Et alors, le résultat, c'est qu'ils étaient devenus spirituellement sourds. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux par ce qu'ils voient et vos oreilles par ce qu'elles entendent. Et heureux êtes-vous également ce soir si vous n'avez pas endurci vos oreilles ni votre cœur à la parole de Dieu. Oui, heureux êtes-vous car c'est ainsi que vous serez bénis, secourus et finalement sauvés. Mais quant à ceux qui s'endurcissent contre la parole de Dieu, c'est cette parole elle-même qui les endurcira au bout du compte. Et ainsi seront-ils finalement perdus. Et c'est pourquoi, avant d'en arriver là, comme il faut se repentir et se tourner vers lui en vérité et le faire sincèrement et de tout son cœur. Amen. Nous relevons encore un cinquième grand élément, c'est que l'oreille de cet homme a été coupée par l'épée. Or, nous savons que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 17. C'est une épée qui est solide, elle. Elle a donné de grands coups. Elle a eu à en supporter aussi de terribles. Mais elle ne s'est jamais brisée, ni même ébréchée. Mais tous ceux qui se sont opposés à elle ont été brisés. C'est une épée tranchante, capable, comme il est écrit, de séparer âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle fouille les consciences. Et c'est pour cela que beaucoup ne veulent pas la supporter. C'est une épée qui effectue un travail douloureux, du moins dans un premier temps. Pour que notre homme réalise son état d'erreur et de perdition, il a fallu qu'il ait une oreille tranchée. Dure façon de réveiller quelqu'un à la réalité. Mais c'était pourtant nécessaire dans son cas. Et de même, Dieu, par les événements, les circonstances parfois difficiles, et l'accompagnement de sa parole, permet que certains soient frappés pour les éveiller et leur faire comprendre leur état. Ce n'est pas pour leur perdition ou leur désespoir, mais c'est pour qu'ils réalisent leur état véritable, pour qu'ils viennent à lui et qu'ils puissent ainsi les sauver et les secourir. De plus, l'évangile de Jean, au chapitre 18 et au verset 10, dans sa recension de ce même récit, nous dit que ce serviteur s'appelait Malchus. Or, le mot Malchus, c'est la forme grecque d'un mot sémitique qui veut dire roi. Et ceci aussi, combien Malchus est un exemple. et un représentant de la race humaine actuelle, de la race humaine au travers de tous les temps d'ailleurs, hein, parce que on veut se choisir des rois, on veut se choisir des gens qu'on veut suivre, des gens qu'on peut voir. Le peuple d'Israël, en son temps, demandait un roi, terrestre, je veux dire. Hein. Et puis, il cherchait des hommes à poigne, eh oui. Et puis, en même temps, on veut se faire soi-même roi. On veut gouverner et diriger sa propre existence, sans que personne d'autre n'ait voix au chapitre. On se pense assez grand pour ça. Il y a dans notre vie un grand trône, sur lequel il y a un grand moi. Voilà, autour duquel on essaye de faire tourner toute chose. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, ce grand moi, qui a l'air si indépendant, n'est qu'une marionnette, dont les ficelles sont tirées par quelqu'un qui se cache derrière le trône, et qui a pour nom Satan. C'est lui, en fait, le roi, tant que nous ne sommes pas venus à Christ. Et il manie sa marionnette, avec des fils, avec des chaînes, avec des liens qui ont pour nom passion mauvaise, accident, maladie, malheur, vice de toute nature, mauvais caractère et tant d'autres. En fait, il dirige tant et tant de vies, même quand elles prétendent que ce n'est pas vrai, mais le mauvais fruit qu'elles portent le démontre bien. Il est un roi qui doit être établi sur nous, et c'est Christ. C'est à lui que revient légitimement le trône de notre vie. Il est en effet le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Non seulement il nous faut l'inviter dans notre cœur, comme on inviterait quelqu'un un soir, mais il faut que ce soit lui qui puisse diriger toute chose dans toute notre vie et en tout temps. Faisons-lui confiance. C'est lui qui saura conduire les choses au mieux. C'est lui qui pourra donner une solution à toutes nos difficultés. C'est lui qui saura nous délivrer et nous guérir. C'est lui qui nous donnera le bonheur et la paix véritable, non seulement sur cette terre, mais dans l'éternité. Et enfin, le miracle, pour en revenir à notre texte du chapitre 22, au verset 51, Jésus touche son oreille et le guérit. Considérez combien le Seigneur nous invite à agir à l'égard de nos ennemis et de nos adversaires. Il leur rend le bien pour le mal, et c'est ce qui est capable de gagner cet homme. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, par nos simples forces, par nos propres capacités seulement. Mais avec le Seigneur dans notre cœur, c'est une chose qui devient possible. Et puis considérez en deuxième la puissance guérissante de Jésus. On aurait pu croire qu'il n'avait plus de puissance, ou en tout cas qu'il en avait moins. En effet, il était en quelque sorte au creux de la vague. Lui-même dit au verset 53, « C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Et cependant, cette puissance de guérison est toujours là, exactement comme au plus beau jour de son ministère terrestre, quand les foules venaient par milliers, au point de se piétiner les uns les autres, et que tous étaient guéris par lui. Cette puissance de guérison et de délivrance atteindra même son apogée quelques heures plus tard, lorsqu'il sera sur la croix, et que là, il aura porté nos péchés et nos maladies, et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ah, et si Jésus, au moment des plus grandes difficultés, a ainsi manifesté sa puissance pour guérir, à combien plus forte raison peut-il le faire aujourd'hui pour tous ceux qui viennent à lui et se jettent dans ses bras avec confiance, comme il faut donc que veniez à lui sans plus tarder, car en lui est maintenant la puissance de la résurrection, plus extraordinaire que tout autre. Et puis une troisième chose que nous pouvons considérer, c'est que Jésus, en le guérissant, lui permet à nouveau de servir le Seigneur. Avec une oreille coupée, il ne pouvait plus. Nous l'avons expliqué tout à l'heure. Mais voici que Jésus lui rétablit miraculeusement son oreille. C'est comme s'il lui disait « Tu ne pouvais plus servir dans ce temple fait de main d'homme, mais maintenant tu vas pouvoir servir dans le véritable, qui est céleste. Tu ne pouvais plus avoir une religion morte, mais maintenant tu vas servir le Dieu vivant. Tu avais pour maître un sacrificateur souverain, mais tellement imparfait, sujet à la mort. Maintenant, tu vas avoir un autre souverain sacrificateur comme maître, qui est parfait, sans faute, et qui va vaincre la mort, Jésus lui-même. Voilà le sens de cette guérison, la signification spirituelle profonde de ce miracle. Et c'est encore pour cette même raison que Jésus accomplit tant de miracles aujourd'hui. C'est aussi pour cela qu'il agira pour vous si vous venez à lui de tout votre cœur, afin que vous deveniez les serviteurs de ce merveilleux souverain sacrificateur qui est établi pour toujours dans le ciel de gloire. Alors mes amis, en conclusion, combien Malchus a dû être bouleversé dans son cœur ce jour-là. il y a eu d'abord le fait qu'il a dû reculer et tomber à terre en même temps que tous les autres lorsque les paroles puissantes de Christ sont sorties. Lorsque ses ennemis venaient à lui et qu'il demandait s'il était là et qu'il a dit « c'est moi » dans Jean chapitre 18 au verset 6. Donc sa puissance s'est manifestée en même temps que cette parole. Et c'était un premier grand point, cela. S'il n'avait pas été dans l'aveuglement, le fanatisme et le débordement de passion, cela aurait dû suffire pour l'arrêter dans son entreprise mauvaise. Mais même alors qu'il était dans ses mauvaises dispositions, cela n'avait pas dû manquer de le frapper dès l'abord. Il y a eu ensuite le traumatisme de ce coup d'épée qu'il a subi. Il y avait de quoi être nerveusement et émotionnellement choqué lorsque l'éclair de la lame qui s'abattait à lui dans la lueur des torches, il n'a peut-être pas réalisé à cause de la brûlure de cette coupure, mais il a dû en avoir ensuite des sueurs froides. Et combien son esprit a dû être alors dans la crainte. Je ne sais pas s'il a réalisé d'un coup que cela signifiait la fin de sa carrière, de ses espoirs et de son idéal, mais certainement en a-t-il été profondément bouleversé. Et puis, il y a eu le fait que Jésus l'a guéri. Quel basculement dans son cœur et dans ses pensées, justement celui qu'il était venu arrêter, celui auquel il voulait tant de mal, celui qu'il avait tant critiqué et calomnié, c'est lui qui lui faisait du bien. Quels charbons ardents amassés sur sa tête. Ah, cet homme, si rempli de certitude, auparavant, ne savait plus où il en était. Et puis, il y avait la puissance de Jésus manifestée. Il aurait pu le détruire. Lui, misérable ver de terre, il ne l'a pas fait. Au contraire, il lui a fait du bien. Ah, il y a de quoi réfléchir pour tout être raisonnable. Il n'y a que de quoi se remettre en cause, même pour un ennemi acharné. Il y a de quoi se tourner vers lui et le suivre, si on n'est pas un insensé complet ou d'une totale mauvaise foi. En fait, nous ne savons pas vraiment si Malchus s'est converti. C'est fort probable. Souvent, lorsque quelqu'un se convertissait, on retenait son prénom dans les évangiles. S'il ne l'a pas fait, il aura manifesté une très grande folie. Mais qu'en est-il pour vous? Il vous a supporté avec patience. Il vous a préservé jusqu'à présent dans sa miséricorde. Il a supporté vos péchés, vos oppositions. Il vous a parlé de différentes manières. Y avez-vous pris garde? Il vous parle encore ce soir, très clairement par sa parole. Vous lui avez fait du mal. Il veut le changer en bien, vous bénir, vous sauver. Venez à lui et soyez sauvés. Laissez-vous toucher par l'amour du Seigneur. Laissez-vous toucher par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour le pardon de vos péchés. Laissez-vous toucher par la manière dont il rend le bien pour le mal qui lui a été fait. Laissez-vous toucher par son esprit de pardon et de miséricorde à l'égard des pécheurs. Laissez-vous toucher par sa puissance guérissante. Laissez-vous toucher par sa puissance pour accomplir toutes sortes de miracles et de prodiges. Laissez-vous toucher par sa capacité de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et que son œuvre d'entier salut, de pleine bénédiction, puisse ainsi s'accomplir dans votre âme et dans toute votre vie. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons parce que tu es celui qui est par ta parole agit encore pour toucher les cœurs, toucher les consciences. Seigneur, tu vois parmi mes auditeurs en particulier ceux qui ce soir ont ce désir de se tourner vers toi et qui veulent le faire, qui ne veulent pas remettre à plus tard, qui ne veulent pas négliger, qui ne veulent pas s'opposer aux appels puissants et profonds dans leur conscience, aux appels puissants et profonds de la parole vivante et agissante. Merci Seigneur, béni soit ton nom, et merci parce que tu as accompli ton œuvre en leur faveur, et s'ils se tournent vers toi maintenant, eh bien tu écoutes aussi leurs prières et tu leur fais grâce. Sois loué, sois béni pour l'œuvre merveilleuse que tu veux accomplir dès ce soir et dans toute la suite de leur existence, s'ils te suivent simplement et avec confiance. Sois béni notre Dieu. Amen. Amen. Voilà mes amis, mes frères et sœurs, eh bien, il me reste à vous rappeler simplement que le samedi, c'est le jour de l'évangélisation dans les villages, avec les nouveaux traités en boîte aux lettres. Le rendez-vous est à 14h30 à l'église. Le culte, c'est à l'église aussi, donc à 8h30 et à 10h45. Mais n'oubliez pas de vous inscrire pour y participer. La réunion de prière à l'église se fait, elle, le mercredi. À 20h15, il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance. Et puis nous avons aussi des baptêmes qui sont programmés pour le mercredi 28 octobre. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous fortifie en lui. Amen.